La revue de presse, Claude Skolovitch, on parle d'un petit garçon ce matin.
Et on parle aussi de sa maman qui est morte et de sa petite sœur qui n'en naîtra jamais. Lui s'appelle Samuel, il dessinait cet été chez sa grand-mère paternelle quand son papa lui a demandé ce qu'il faisait. Ça c'est maman, avec ma petite sœur qui va naître en septembre, a-t-il répondu. Nous étions le 20 juillet. 15 jours plus tard, le 4 août, Chloé, la maman, était abattue de 3 balles par Ibrahima, le papa, qu'elle avait quitté quelques années plus tôt parce qu'il la battait. Il la battait même quand elle portait Samuel bébé dans ses bras, se souvient sa sœur. Chloé s'était reconstruite, elle n'avait jamais rompu tout contact avec cet homme qui l'avait séduite au temps où, gamine, elle aimait les mauvais garçons du quartier de l'Estéo à Marignane. Celui-là était le père de son enfant, il la menaçait encore et puis il l'a tuée. C'est dans la Provence, une parmi tant d'autres des histoires que nous vous racontons en cette journée spéciale sur France Inter et que vous lirez aujourd'hui dans nos journaux quand s'ouvre le Grenelle des violences conjugales, quand 101 femmes sont mortes cette année sous les coups de leurs compagnons, quand la presse rassemble alors les drames d'une société malade, d'une inaction qui tue, dit l'humanité. Il est temps d'agir, dit La Croix, qui dénonce le machisme à la française. Stop à l'hécatombe, dit le courrier Picard. Mobilisons-nous, dit La Montagne. Mais avant la mobilisation, on ressent de l'abattement devant tant de deuils et de peurs, tant de souffrances, de femmes invisibles, dit l'Écho républicain, où Inès se raconte, dont le mari, brutal, pervers, donnait le change. Un homme éduqué, cadre dans une grande entreprise, qui parfois la chassait la nuit de leur maison. J'ai dormi sur un banc dehors une autre fois dans une église, je me disais que c'était de ma faute, la seule solution que j'envisageais était le suicide. Mon avenir ? Je vais mourir. Il parviendra à ses fins, je vis dans la peur, c'est un mode de vie, souffle dans Presse-Océan Sophie, dont l'ex-compagnon, bourreau, vient de sortir de prison. Il n'est heureusement pas que la mort quand on parle des femmes ce matin, et vous pourrez vous ensoleiller en une de Midi Libre de Mireille et Maria, qui ont sauvé un bébé et sa mère perturbée qui avait accouché dans les toilettes du restaurant où elle travaille sur une aire de l'autoroute A9. La maman avait laissé le bébé dans la cuvette des toilettes et se sauvait en sanglotant. Elles ont séché le bébé avec du papier toilette, elles l'ont réchauffé, elles ont calmé la mère, elles ont donné deux vies.
On parle aussi de Boris Johnson dans la presse ce matin.
Qui veut, dit le Figaro, imposer sa loi au Parlement pour aller tranquillement vers le Brexit, mais le Parlement résiste et lui impose une fronde, répliquent les Échos. Mais cette querelle britannique masque un autre débat fondamental que l'opinion nous explique. Nous constatons une crise générale de la démocratie parlementaire. Quand en Israël, en Italie, donc au Royaume-Uni, des hommes forts, Salvini, Netanyahu, Johnson, affrontent les parlements, les suspendent, les dissolvent ou bien le menacent. En Italie, le Parlement l'emporte pour l'instant dans une combinazione, dit l'opinion, mais à Londres, l'affrontement est historique, car c'est en Angleterre qu'est née la démocratie représentative au XVIIe siècle, d'évolution du pouvoir au meilleur, ou supposait-elle, élu par le peuple. Est-ce la fin ? La politique est un temps très long. Un sociologue mort à 88 ans le savait mieux que personne. Il était américain et s'appelait Immanuel Wallerstein. Il était aussi bien impliqué dans nos querelles contemporaines que familier du capitalisme agricole naissant dans l'Europe du XVIe siècle. Point de départ d'une œuvre maîtresse sur le système monde, commencé il y a plus de 40 ans et qu'il laisse inachevé. Le New York Times, l'article est en ligne, saluait déjà sa contribution majeure en 1974. Il continuait le français Brodel, il observait le capitalisme dont il pensait et espérait. Il avait dit au Monde en 2008, article également en ligne, qu'il finirait le capitalisme par s'éteindre. Il voulait, Wallerstein, rassembler science et philosophie, dit sur le site The Conversation Michel Wieworka, qui ajoute ceci. Il était aussi un mari et père de famille aimant et un merveilleux ami. Et de fait, la douceur qui émane de ce vieux monsieur moustachu nous manque déjà au temps des brutes. Dans Slate, sur Internet, on me parle d'un autre Américain qui vient de s'en aller, qui avait voulu fuir le capitalisme. Steve Rittenberg était parti en Chine et était devenu membre et cadre, parfois emprisonné, parfois choyé, du Parti communiste chinois. Il avait fini par revenir au pays, fonder une société et faire du business avec la Chine, repris donc par le capitalisme.
Et des trésors, Claude, pour finir.
Et le Figaro nous emmène à l'aventure aux portes du désert, dans la province de Nimrose, en Afghanistan, où des aventuriers cherchent et trafiquent les vestiges archéologiques d'une terre où Alexandre le Grand guerroya, bien avant les Russes et les Occidentaux. L'histoire s'est levée dans un sol que grattent des familles tout près de trafiquants d'opium. Nous bavardons dans son échoppe avec un monsieur, Haji Aga, qui a vendu un jour un sabre 30 000 $ à un riche arabe. Et nous apprenons qu'il vaut mieux trafiquer les antiquités que la drogue et que les talibans, évidemment, participent à la fête. Il est aussi des trésors enfouis dans les eaux. Le Monde le raconte dans un article averti, le Monde me raconte dans un article averti des vestiges indiens brésilien précolombien au fond du lac Titicaca, ou une escadre antique retrouvée intacte au fond de la mer Noire, ou une jonque chinoise du XIIIe siècle extraite de la vase chargée de porcelaine précieuse, les os sont des sarcophages, mais menacés par le pillage, que savons-nous garder ? La Marseillaise me raconte une autre histoire de trésors, mais ces trésors-là, nous les portons dans nos corps et nous les oublions. Mais après nous, d'autres les recueillent. On parle de l'or des morts, les déchets métalliques que laissent les corps incinérés, que les crématoriums valorisent. Les familles à qui on remet les cendres calcaires d'un disparu ne savent pas qu'avant un tri a été fait, nos prothèses métalliques ou d'or reviennent dans le commerce. Le crématorium de Saint-Pierre a tiré des défunts 852 grammes d'or l'an dernier, presque un lingot. Dans Le Monde, j'en termine. Dans un texte plein de verve, des architectes emmenés par Roland Castro et Jean Nouvel dénoncent le projet de transformation de la gare du Nord qui va offrir au groupe Auchan un vaste centre commercial que les voyageurs, par force, devront traverser avant de rejoindre leur train. Une hérésie architecturale, économique et humaine, assurent ces hommes de l'art. Dépouillés morts, serons-nous aussi forcément tentés vivants.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.